Chapitre 4. Au pied du mur. Mais à moi, poursuivit Pierre Coum, n'était-il pas convenu que vous me donneriez des leçons? Je les réclame, je les exige. Au moins 4 par semaine. Je suis libre en général à 6 heures. Jolie heure pour parler français avant le dîner. Et nous ferions ensuite dînette ensemble. Joignons nos deux solitudes. Je voudrais bien vous donner des leçons, fit Thérèse non sans hésiter. Mais vous allez me trouver sordide, avez-vous le moyen de les payer? En tout cas, pour 4 leçons, je vous ferai des conditions spéciales. Honnête et plus qu'honnête enfant, s'écria-t-il. Tenez, nous supposerons que je reçois une pension de ma famille. Pourquoi ne pas supposer cela? C'est peut-être vrai d'ailleurs. Alors, le premier jour de chaque trimestre, je suis riche à dégorger de l'or. Et j'ai inauguré au journal une série d'historiettes qui se passent chez les petits boutiquiers du Soho. C'est payé assez bien, donc je peux m'accorder le luxe de prendre des leçons de français. Par charité, murmura Thérèse. Charité bien ordonnée commence par soi-même, cita-t-il en français. C'est à moi uniquement et à mon avantage que je pense en vous demandant ces leçons. J'ai à interviewer prochainement, pour mon journal, de vieux réfugiés de la commune qui ne savent pas un mot d'anglais. Vous m'en direz tant, dit Thérèse. Si nous commencions tout de suite, comme le dit notre proverbe, aucun temps ne vaut le présent. Il prit sa leçon avec beaucoup d'entrain et assez de réussite. Vous avez bonne oreille pour l'accent, c'est autre chose que Miss Lona, fit Thérèse, qui recommençait à voir les choses moins en noir. Vous n'aurez pas longtemps besoin de mes leçons. Quand son élève fut parti, elle découvrit qu'il avait laissé discrètement sur le coin de la cheminée une petite enveloppe portant pour souscription « À valoir 4 leçons ». Décachée, se demanda-t-elle un peu inquiète. L'enveloppe contenait un billet mince et craquant, le beau papier de la Banque d'Angleterre, 1 livre, 25 francs. Mon loyer d'une semaine, pensa-t-elle instantanément. Je ne toucherai à ma réserve que pour mes repas et ce que je vais être frugale. Le lendemain, Pierre Coum revint, non pour prendre une leçon, mais pour proposer une promenade. Nous irions en omnibus d'abord, puis à pied, du côté de Hampstead, c'est presque la vraie campagne. Thérèse accepta, à la condition de payer sa quote-part. « Mais cela ne se fait pas, protesta-t-il. Une jeune fille invitée ne paie pas. » « Vous avez promis que nous serions des camarades. Je ne suis pas une jeune fille invitée. » Il haussa les épaules. « Mauvaise tête, murmura-t-il. Ah, qu'on a de mal à en venir à bout. » Thérèse ne goûta pas beaucoup cette remarque. Elle redressa sa mauvaise tête et dit « De votre côté, je vous trouve querelleur. Je n'aime pas les querelles. »« Querelle d'amoureux, » rétorqua-t-il immédiatement. « Non, ne vous fâchez pas, le mot « amoureux » est au singulier. Vous n'allez pas, j'espère, faire semblant d'ignorer que je suis amoureux fou de vous. » Non, elle ne pouvait ignorer que ses yeux singuliers la dévoraient, l'enveloppaient d'une flamme dont elle sentait l'ardeur sur son visage, sur son cou, où montait une rougeur ardente. Troublée mais curieuse, et bien sûre de sa sagesse, elle se laissa persuader d'aller à Hampstead. Et pendant toute la petite excursion, Pierre Coum fut parfait. Attentif, fraternel, causeur amusant, toujours assez paradoxal et ne disant jamais la chose à laquelle on s'attendait, il enchanta la naïve Thérèse qui en oublia presque l'incident du balcon. Après tout, un jeune homme peut bien perdre la tête pendant 5 minutes, puis revenir définitivement à la raison. Dans les romans de Ouida, il y avait des situations analogues qui se dénouaient très bien. Thérèse paya son omnibus et son dîner dans une petite auberge rustique où on leur servit de grandes tranches de bœuf froid avec des pickles, cornichons et oignons terriblement poivrés, puis un pâté froid de porc, de pâtes grasses et lourdes, de la bière très fraîche, une grosse tarte aux pommes. Que tout cela était froid et pesant! Thérèse aurait bien préféré une tasse de thé chaud avec un sandwich qui lui aurait coûté 6 pence. mais Pierrecoume avait bon appétit et déclarait que dans le monde entier, ce n'est qu'en Angleterre qu'on trouve une tranche de bœuf froid mangeable et un pâté de porc accommodé avec les épices qu'il faut. « Je vous conduirai une fois à Hindhead. C'est encore beaucoup mieux qu'ici, une vue, un air et des tas de petits cottages où les pauvres diables, comme vous et moi, viennent passer leur lune de miel. » Le soir, Thérèse se découvrit plus pauvre de 5 shillings et se dit « Folie à ne pas refaire, sinon je me trouverai bientôt au pied du mur. » Cette fois, elle y était bel et bien au pied du mur, car il y avait 5 semaines qu'elle payait son loyer du logis rose et qu'elle vivait de thé et de biscuits secs avec un œuf de temps à autre. Chaque fois qu'elle était sortie avec Pierrecoume, elle s'était obstinée à payer son écho, en évitant toutefois que ce fût celui d'un dîner copieux comme à Hampstead. Pierrecoume prenait un air rageur quand Thérèse lui glissait sa pièce et il ne manquait pas de répéter « mauvaise tête ». Mais sauf ce petit moment désagréable, toute la promenade l'avait délicieusement ravie. Que c'était bon pour une créature jeune et solette de se sentir protégée, entourée, guidée et comprise surtout, et même grondée comme par un grand frère. Pierrecoume se révélait plus cultivé qu'elle n'aurait cru, formé par les voyages, assez pessimiste d'ailleurs, et Thérèse l'avait jugé en même temps « je m'en fichisse » si ce mot avait déjà existé. Il disait « Bah, bah, cueillons le jour, ne sommes-nous pas bien ? Oublions les méchants, c'est-à-dire tout le monde, sauf nous. » Il emmena Thérèse au palais de cristal le soir d'un merveilleux feu d'artifice dont elle resta éberluée, privée de parole et presque sanglotante devant l'inimaginable féerie. Pierrecoume, n'importe où, dans l'omnibus, dans un chemin, dans un restaurant, ne laissait pas sa camarade s'ennuyer un instant. Il lui racontait, avant de les porter au journal, ses petites histoires de boutiquier ou de communard du Soho. Il lui enseignait même un peu d'argot populaire. Quand vous déjeunez dans un ABC, essayez de demander un seuil de porte, ce qui veut dire une tranche de pain épaisse, vous ferez un effet, je vous assure. Et chez le boucher, quand vous en serez réduite à cela, achetez une livre de 4 nations, dans le Soho naturellement, un boucher d'Oxford Street vous mettrait à la porte. Cette nourriture-là, ce sont des débris de bœuf, de mouton, de porc et de veau. Le bœuf, c'est l'Angleterre, le porc, la Verterine, le mouton, l'Écosse, et le veau, ma foi, je ne sais pas, c'est sans doute le pays de Galles. Quand, en faisant son petit ménage du matin, Thérèse se remémorait leur dialogue, elle riait et, dans la même seconde, pensait « Ça ne peut pas durer, ça va finir. Il faut que je prenne parti avant de n'avoir plus le sou. » Les leçons espérées avaient été un mirage et les 5 demoiselles en étaient restées au 9e cachet. Miss Lona avait déménagé à la cloche de bois. Thérèse n'osait même plus parler à Pierrecoume de ses amis journalistes, car à la moindre allusion qu'elle faisait à ce mécompte dont il était responsable, l'aimable et charmant camarade prenait un air désespéré. « Je vous les amènerai pieds et poings liés si je le pouvais. Mais les 3 meilleurs, les sérieux sur qui je comptais, sont partis en vacances. Ah, c'est que je partirais en vacances, moi aussi, sans le devoir que j'ai de vous sortir de cette impasse. Pourquoi vous y êtes-vous fourré ?»« J'aime bien ça !» s'exclamait Thérèse. « Certes, j'ai cru vous conseiller très bien. Mais vous n'étiez pas obligé de m'écouter, vous qui êtes si raisonnable. » Pour l'amour du ciel, ne pleurez pas. Tout plutôt que ça. Ah, ce que je donnerais pour essuyer ces petites larmes avec mon joli petit mouchoir qui est en soie. Je les essuierais bien moi-même, faisait Thérèse avec indignation. D'ailleurs, je ne pleure pas. Mettons-nous à notre leçon. Il apprenait cette leçon avec une régularité sans accroc, 4 fois par semaine, et la petite enveloppe avait déjà payé 5 fois le loyer. C'est très bien d'être logé dans des meubles de fantaisie, mais il faut manger. Il faut ressemeler une paire de bottines, mettre à chaque instant un penny dans le distributeur à gaz. Quelques jours après la date de son anniversaire, Thérèse avait reçu plusieurs lettres de chez elle et de ses amis, missives qui avaient traîné d'abord dans les mains de Trondiche, de la Maison des Miroirs, puis chez Madame Stephen et l'obligeante Gallimard, seule à connaître l'adresse actuelle de Thérèse, les y avait fait suivre. Une dépense de timbre-poste pour les réponses allait être nécessaire. Thérèse n'avait jamais vécu rien qui ressemblât autant à la misère. Elle venait d'aligner au bord de sa petite table dorée et boiteuse des piles vite comptées de pence, de shillings et quelques demi-couronnes. L'addition faite, ses idées se brouillèrent au lieu de s'éclaircir. Une crispation étrange lui serra la gorge, son esprit comme figé et s'immobilisé, quand, au contraire, la roue des ressources mentales aurait dû tourner rapidement. Tout ce que Thérèse trouvait à se dire, c'était, vaguement, « Ah, si j'étais Galimard !» Oui, en définitive, il n'y avait plus que Galimard, se mettre à coiffer et à masser avec elle.